France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Cinéma et musique sont à l'honneur de ce nouveau numéro des Midis de Culture. À 13h, je reçois Mathieu Bogaerts pour la sortie de son 9e album. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Aujourd'hui, on parle de deux sorties de poids, on va dire. La chambre d'à côté, c'est le nouvel Almodovar, et Les Feux Sauvages, film tourné sur 25 ans par le cinéaste chinois Jia Zhongke. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aussi à nos critiques du jour. J'ai nommé Muriel Joudet, critique au journal Le Monde, bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Pirer, critique pour les revues AOC et Trois Couleurs, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux. Tilda Swinton et Julianne Moore sont donc réunies devant la caméra de Pedro Almodovar dans un quasi huis clos. C'est La Chambre d'à côté qui sort aujourd'hui, 23e long métrage du cinéaste espagnol, le premier qu'il tourne en anglais, qui a remporté le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. N'en jetez plus, notre curiosité est aiguisée. Quant à l'histoire, c'est celle d'une amitié, celle qui pousse Ingrid, c'est-à-dire Julianne Moore, à accompagner les derniers instants de Martha, Tilda Swinton, atteinte d'un cancer en phase terminale et décidée à mourir à ses propres conditions. On commence avec un avis rapide de l'une et de l'autre, Raphaël Pirer.
Je retrouve dans La Chambre d'à côté ce que j'aime chez Pedro Almodovar, c'est-à-dire l'intelligence de sa mise en scène, son amour fou pour les actrices. Mais ce sujet de la mort choisie, il l'aborde en fait avec une espèce de formalisme et de pudeur, de retenue, qui fait que La Chambre d'à côté parle plus de la mort par la question de sa représentation que vraiment par la question de la disparition, quoi. Et qu'il en fait presque une vanité au sens pictural du terme. Et et ce qui est très étonnant chez lui, c'est que il en fait un mélodrame sans larmes, en fait. Et c'est vraiment sublime.
Muriel Joudet.
Alors c'est un film très étonnant parce que il y a presque la découverte d'une nouvelle planète, puisque c'est le premier film de Pedro Almodovar anglophone. Enfin, il avait fait un court métrage, on en reviendra.
Ouais.
Et ça, c'est très bizarre en fait. C'est assez passionnant de voir un cinéaste qui sort de son système, de son pays, de sa langue, et en même temps reste lui-même aussi.
Alors on va écouter tout de suite la bande-annonce de La Chambre d'à côté, pardon.
The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead.
Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches?
Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie.
Hors de question que je subisse une agonie avilissante.
Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? J'apprends avec elle, et tu devrais en faire autant. Il y a plusieurs façons de vivre dans la tragédie.
Tu les entends? Le jour se lève.
Et tu es vivante.
Voilà, Julianne Moore et Tilda Swinton dans La Chambre d'à côté de Pedro Almodovar. Raphaël Pirer, vous parliez de la représentation de la mort et non tant de la disparition, de la question des disparitions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vouliez dire?
Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, Pedro Almodovar se concentre beaucoup sur tout ce qui est appelé à périr, à disparaître. Donc on a beaucoup de fleurs, de corbeilles de fruits, enfin voilà, tous ces motifs-là qui sont les motifs usuels de la peinture de vanité. Et puis au centre du film, les deux personnages joués par Julianne Moore et Tilda Swinton vont dans une maison que Tilda Swinton, qui s'appelle Martha, a choisie pour aller y passer son dernier séjour pendant quelques semaines. Et elle voit au mur un tableau de Edward Hopper, Jean au soleil, qui est un tableau très étrange où on voit des personnes très habillées prendre un bain de soleil, mais dans des positions assez étonnantes, un peu dos au spectateur. Et elles se disent toutes les deux, est-ce que c'est vraiment une très bonne copie du tableau? Peut-être même que c'est son original. Et cette question de l'image, de la réalité ou de son image ou de sa représentation, de sa fixité, est constante dans le film. Et cette idée que Martha, en mourant, deviendrait comme le tableau est une idée qui est vraiment un leitmotiv du film qui est très très beau en fait. De qu'est-ce qui différencie une image fixe d'une image animée? Il y a quelque chose comme ça de mise en abîme entre ces deux personnages dont l'une va mourir. Et puis qu'est-ce que c'est que faire du cinéma, faire des images quoi.
Et puis le personnage de Martha est une photographe, c'est ça, reporter
elle
de guerre.
Elle est reporter de guerre, voilà. Mais elle écrit.
Elle écrit.
Elle écrit.
Donc c'est aussi la question de la représentation quelque part,
oui,
de toute façon.
Oui, et aussi la question de la mort.
Oui, évidemment. Muriel Joudet, vous dites que c'est un renouveau et en même temps, ça reste du Almodovar, on le retrouve complètement.
Oui, moi j'ai eu un peu peur au début, vraiment, voilà, c'est très étonnant donc, de voir Almodovar faire son premier film en anglais. Et je crois qu'il avait eu un projet avec Julianne Moore, ou avec Tilda Swinton, je ne sais plus, qui avait avorté, il avait dit j'ai pas l'énergie, je ne peux pas le faire et tout ça. Et j'avais cru comprendre, ou alors j'avais projeté sur cet échec, le fait que c'était impossible pour lui de faire un film avec des acteurs anglophones. Et là, il le fait. Et au début, je me suis dit, on dirait un film doublé. Enfin, j'étais tellement pas l'habitude de voir des acteurs, des actrices ne pas parler espagnol que j'ai eu comme ça. Je me suis dit, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner ce passage aux États-Unis.
D'autant que lui ne parle pas du tout anglais, donc il comprend pas ces acteurs.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je me demandais, c'est que qu'est-ce qu'il y a aussi toujours ce à chaque fois qu'un cinéaste change de pays, il y a aussi ce truc des dialogues qu'on va traduire et du coup qui vont être mal traduits. J'ai trouvé comme ça qu'il y a une sorte d'étrangeté qui en fait finit par passer ou qui finit par devenir une des beautés du film. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va comprendre aux États-Unis, parce qu'il y a, comme l'a souligné Raphaël, il y a deux trois aussi percées sur l'état des États-Unis, le capitalisme, l'extrême droite. C'est l'affaire de deux phrases, mais je me suis dit bon, il connaît pas ce pays, et là il s'en empare, et il connaît pas ses actrices, ou il sait pas filmer la langue anglaise, et là il s'en empare, et en fait ça crée quelque chose de très beau, d'une étrangeté qui participe au film, et à quelque chose aussi, on sent qu'il fait aussi... qu'il est prudent. Moi, j'ai trouvé que le film avait la densité d'une nouvelle ou de quelque chose comme ça, de très ténu, comme si il fallait faire un huis clos faute de pouvoir filmer, comme si Almodovar avait peur de s'aventurer à l'extérieur. Et je rejoins tout à fait Raphaël sur le côté cette fixité qui a quelque chose de comme si le corps était à un état cadavérique, cette fixité, cette rigidité cadavérique des corps qui fait beaucoup penser. Moi, j'ai beaucoup pensé à la photo de mode. Je me suis dit, il y a vraiment cette idée de transformer la mort en un catalogue, un journal, voilà, un numéro de Vogue avec ces images en papier glacé, et en fait on se l'associe jamais de la dimension de la couleur chez Almodovar. Je trouve que c'est vraiment un génie de la couleur. C'est pas juste que c'est coloré, c'est qu'il y a un travail de coloriste qui devient en fait, puisque le film est très ténu, puisqu'il tient sur très peu de choses, c'est-à-dire deux actrices, l'une qui accompagne une autre à mourir. Dans ce dialogue entre les deux actrices, il y a quand même un troisième terme qui est la couleur. Mmh. Et il y a des choix de couleurs, il y a du bordeaux mêlé à du vert fluo, enfin des trucs complètement démentiels. Et je le trouve toujours, mais d'une inégalé et inégalable sur le travail de la couleur, qui est vraiment un commande, c'est presque un film parallèle par rapport à, et il y a quelque chose comme ça de aussi de faire de la couleur et des couleurs les plus vives quelque chose qui a très quelque chose de funèbre. Souvent on pense que c'est le gris, c'est le noir qui sont funèbres, et là d'un seul coup c'est le rouge, c'est le vert fluo, c'est le jaune pétant qui deviennent funèbres. Et ça, pour le coup, c'est aussi un travail de peintre, quoi. C'est presque du David Hockney, c'est de l'hyperréalisme américain. Et c'est peut-être là qu'il est plus américain.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est ça qui retient du... c'est ça qu'il emprunte à l'Amérique, c'est quelque chose du mélodrame classique. Et qu'il retient, par exemple, de Hitchcock et de Vertigo, le fait que pour Hitchcock, les couleurs de la mort, c'est le rouge et le vert. Mm-hmm. C'est le pourrissement et le sang, quoi. Mm-hmm. Et ça, on en retrouve, ces couleurs-là, on les retrouve beaucoup, mais il allie aussi, comme le disait Muriel, du jaune, du bleu, et il combine les couleurs. Et c'est aussi un film qui travaille beaucoup cette question d'être à côté. Martha, elle demande à son amie, qui est une ancienne amie, donc elles ont à la fois une intimité qui est très forte parce qu'elles ont grandi ensemble, quoi, et en même temps elles se sont pas vues depuis des années, donc il y a aussi une distance entre elles qui est très belle en fait dans leur relation, à laquelle on croit beaucoup. Et donc Martha, elle demande à son amie d'être dans la chambre d'à côté, et le film met sans cesse en scène cette question-là de qu'est-ce que c'est qu'être à côté, et donc il les filme souvent en conversation côte à côte, ce qu'on voit assez peu au cinéma en fait, ce qui n'est pas la forme habituelle de la conversation, de se filmer dans le même espace. Et donc il construit comme ça des espèces d'aplats de couleurs avec leurs pulls incroyables. À un moment, Tilda Swinton a un pull qui est presque une toile de Mondrian, quoi, qui est jaune vif avec des aplats de vert, de rouge, et il les met sur des fonds aussi qui sont magnifiques.
Et ces deux actrices, alors, est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'elles se fondent, elles se glissent dans l'univers d'Almodovar ou est-ce qu'elles ont fait bouger Almodovar vers autre chose ?
Elles font bouger, je pense, Almodovar vers autre chose et en même temps, voilà, Almodovar, si on réduit son cinéma à quelques termes, voilà, c'est les actrices. Mm-hmm. Et même, j'ai l'impression que ce rapprochement entre le jeu d'Julianne Moore et le jeu de Tilda Swinton, c'est aussi un travail sur la couleur. C'est deux couleurs d'actrices, deux teintes, deux textures de jeu très différentes, deux cinémas très différents, même si on est toujours dans le cinéma d'auteur. Mais voilà, Tilda Swinton qui a quelque chose comme ça de complètement extraterrestre et que moi, pendant longtemps, j'ai pas supporté parce que j'en pouvais plus de son numéro de transformiste. Mmh. Et là, d'un seul coup, je trouve que dans ses derniers films, elle est un peu plus... Il y a une sorte de sobriété retrouvée qui fait qu'on peut enfin apprécier son jeu autrement que par des travestissements permanents comme chez voilà Wes Anderson. Et là, j'ai vraiment découvert moi Tilda Swinton, notamment chez Joanna Hogg est là dans ce film et qui a un jeu qui est lié aussi à ses origines un peu aristocratiques. Je crois qu'elle est aristo. Elle a un jeu très comme ça, très distingué, très aristocratique. Et à côté, on a Julianne Moore qui a quelque chose qui vient pour moi, qui vient un peu du mélodrame, mm-hmm. d'une sorte de voilà, c'est Todd Haynes, c'est une sorte de Douglasseur contemporain, qui est une grande référence aussi pour Almodovar. Et je trouve que le film est tellement ténu que ce qu'on a observé, le spectacle de ce film, c'est le jeu des actrices. Et je crois que dans le dossier de presse, Almodovar dit il y a que les grandes actrices qui peuvent réussir à... qui savent écouter, enfin qui savent jouer le fait d'écouter quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le film. C'est-à-dire qu'il y en a une qui parle, il y a l'autre qui écoute. Et si on se concentre sur celle qui écoute, on se rend compte que c'est hyper dur de jouer l'écoute.
Oui, l'écoute
et active. Que le film est vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'il pourrait juste cadrer sur celle qui parle. Et à chaque fois, il cadre les deux. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare au cinéma de voir voilà, deux femmes qui parlent et dont une qui est toute écoute et c'est aussi d'ailleurs une question que charrie le film, c'est-à-dire comment se comporter face à quelqu'un qui meurt. Est-ce qu'on en fait des caisses? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi les mots pour consoler? En fait, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter. Mmh. Et le film est vraiment sur cette question-là. Et je voulais d'ailleurs rebondir sur, parce que Raphaël m'a rappelé quelque chose, c'est que par rapport à Hitchcock, il y a aussi Vertigo, puisqu'on ne va pas révéler la fin. Mais je pense que c'est une grande référence. Il y a tout un jeu avec Tilda Swinton. Et évidemment, là, je me suis dit, c'est fou, il a réussi à évoquer Vertigo dans le film. Oui, c'est très beau ce qu'il fait avec la mort, c'est-à-dire la mort qui se travestit, il y a une histoire de porte qui doit rester ouverte et puis qui se ferme, voilà, j'en dis pas plus.
Il y a une grande question du cinéma américain aussi, la ouais. porte.
Oui, c'est vrai, voilà, c'est fermée. Ça, c'est Fritz Lang, c'est plein de le secret derrière la porte. Et il y a un jeu permanent de travestissement, de déguisement de la mort, de réapparition des. Faire quelque chose de consolatoire par les puissances du cinéma. Et ça, c'est aussi le sujet de Vertigo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec la disparition et comment le cinéma est conscient que, en fait, on ne peut rien faire contre la mort et en même temps, il y a aussi réparation dans le geste cinématographique.
Oui, c'est ça, la permanence, elle vient de ça, elle vient du cinéma et le film est aussi construit un peu comme un musée imaginaire où Almodovar convoque ses références dont parlait Muriel, Douglas Sirk évidemment. Je pense aussi au mélo de Léo McCarré, qui, comme Elle et lui, où il y a aussi de l'humour. Et dans ce film-là, dans la chambre d'à côté, on rit. Il y a un moment où Martha dit à Ingrid, je t'ai toujours demandé de ne pas me parler de ce sujet. Et Ingrid lui dit, non, tu ne me l'as jamais demandé. Elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et là, il y a des instants comme ça de comédie dans les dialogues, dans le jeu des actrices.
Et vous disiez mélo sans larmes.
Ouais. Ouais. C'est vrai que parce que c'est tout dans la retenue, comme disait Muriel, parce que ces actrices-là américaines ne jouent pas à la Almodovar. Et Almodovar avait déjà fait ses gammes un peu avec Tilda Swinton, puisqu'il l'a mise en scène dans un moyen métrage, La Voix humaine, qui adapte le monologue de Cocteau. Donc il avait déjà pris ses marques un peu par rapport à ce jeu à ce jeu en anglais. Et je disais, le film est comme un musée imaginaire où il convoque aussi des images de films qu'il aime, notamment The Dead de John Huston, dernier film de John Huston, et puis également Buster Keaton, qui est pas tout à fait un film qu'on imaginerait à un moment où on parle de la mort, mais en fait, le burlesque, c'est le genre trompe la mort par excellence, puisqu'on a des acrobates qui ne font que éviter de mourir. Et donc, le film de Keaton nous raconte ça aussi, comment on peut parler de la mort en riant un peu sous cap de temps en temps, parce que c'est la seule façon de ne pas être dans le pathos et dans le drame qui a toujours été la marque de fabrique d'Almodovar.
Et donc c'est La chambre d'à côté de Pedro Almodovar sur les écrans aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Jia Zhangke remonte le temps avec Les Feux Sauvages. Le cinéaste chinois revient sur plus de 20 ans de cinéma, de son cinéma précisément, mais aussi 20 ans de bouleversements sociaux et économiques pour son pays, la Chine. Pour ce film, il n'a tourné que très peu de séquences. Il a en fait repris des rushs, des chutes de ses précédents longs métrages. On y retrouve donc des plans de Plaisir Inconnu tournés en 2002 ou de Still Life, Lion d'or à Venise en 2006. Et puis surtout, on voit ces deux interprètes, Zhao Tao et Zubin Li, vieillir à l'écran. Ils incarnent un couple qui s'aime, qui se perd, qui se cherche et qui ne se retrouve pas vraiment. On commence avec un avis rapide, Muriel Joudet.
Je suis passée à côté, ou le film est passé à côté de moi, je ne sais pas dans quel ordre.
Raphaël Pierre.
Moi, je suis partagée. À la fois, je suis très émue, je trouve qu'il y a une fascination à retrouver ces images-là de Jia Zhangke, qu'on connaît sans tout à fait les connaître, parce qu'effectivement, il y a des rushs qui ressemblent à des films, mais qui sont pas tout à fait ces films-là qu'on a vus par le passé. Mais il y a un flottement, en fait, dans leur montage, dans leur agencement, qui fait que le film me perd aussi à de nombreux moments.
On va écouter, alors non pas la bande-annonce, mais un extrait, un bout de la bande-annonce pour avoir une petite idée de l'ambiance de ces Feux Sauvages.
La bonne nuit, sir. Ni hao. 如果我穿得不错的话，你应该不是本地人了。要不要穿个名嘛？我看你愁眉苦脸的样子，是不是有点反心思了？南哥，兄弟帮你化解一下，怎么样？
Les Feux Sauvages de Jia Zhangke, Muriel Joudet, l'émotion dont parlait Raphaël Pirer, du fait de voir comme ça ces comédiens 25 ans en arrière, vous êtes passé à côté aussi.
Ouais, c'est bizarre, j'ai pas eu le sentiment, ce vertige temporel qui est quelque chose qui exploité au cinéma. Alors, je pense à Boyhood de Richard Linklater, même si c'est pas du tout le même geste, mais même je vais vraiment, c'est absolument pas du tout, on est à milieu de Jia Zhangke, mais il y a aussi toutes ces séries, par exemple le documentaire sur Aurel San, enfin vraiment cette idée qu'en fait il y a un moment on va retrouver quelque part des vidéos stockées, des archives stockées, on va essayer d'en faire quelque chose, et du coup on va sur 20 ans, voilà, c'est un geste qui, je trouve, commence à peut-être qui rend du possible par le numérique, même si là il y a du 35 mm, il y a du 16 mm, il y a de la caméra DV, il y a du numérique. Ça, c'est très important pour le film, puisque on sait à peu près où on est par rapport à la texture de l'image, qui est une idée superbe, mais qui, là encore, n'a rien provoqué chez moi. C'est-à-dire que je vois ce que veut être le film, une sorte de film théorique sur les textures d'image, sur le temps qui passe, et le temps qui passe, c'est aussi des textures d'image qui passent. Et pour moi, ça a rien produit. Même le fait de voir Zhao Tao traverser comme ça 20 ans, ça n'a...
Qui est son actrice fétiche, qui sa compagne.
C'est voilà. Ça fait 20 ans qu'ils font, depuis son deuxième film, ils font des films ensemble. Je pense que ça tient, pour raconter un peu le backstage, Jia Zhangke, voilà, pendant le Covid, a retrouvé tout ce qu'il avait filmé. Alors, il parle de partie de chasse, c'est-à-dire qu'il partait avec ses acteurs, avec son actrice et des techniciens tournaient comme ça des plans un peu pour rien pendant 20 ans. Et puis, pendant le confinement, il s'est retrouvé avec toute cette matière, il a regardé, voilà, c'est un peu de l'upcycling, je sais pas comment appeler ça, et il a essayé de voir s'il y avait pas un film qui était qui pouvait surgir. Alors moi, précisément, je trouve que le film ne surgit jamais, que le montage n'arrive pas à trouver quelque chose d'organique. Que je trouve aussi le geste... alors, vous l'avez dit, il y a quelques films, il y a ces parties de chasse, il y a ce mélange, et je me suis dit, en fait, ça ressemble à une bande-annonce un peu hommage au cinéma de Jazanke. J'ai vraiment eu l'impression, voilà, qu'il y avait une rétrospective Jazanke, qu'on nous passait ça comme bande-annonce, ou que c'était une sorte de d'hommage un peu nécrologique. Voilà, j'ai eu l'impression pendant deux heures d'être face à un objet, du coup, un peu complaisant, puisque c'est un geste rétrospectif qui vient de Jazanke, et que, quelque part, et c'est un sentiment que j'ai depuis quelques films, que voilà, justement là où Almodovar se renouvelle en sortant de son pays et de son cadre habituel et de ses pantoufles, j'ai eu l'impression que Jazanke avait un peu fait le tour de ce qu'il avait à nous dire sur la Chine, et que là il y avait quelque chose d'un peu d'une sorte de medley qui du coup ne fait que repasser sur des thèmes qu'il a abordés et nous redire que ça a été très important de Jazanke et qu'il a peut-être un peu épuisé le stock de ce qu'il avait à montrer et à dire.
Raphaël Pirard.
Est-ce qu'il l'a épuisé? En tout cas, je pense que oui, ce film, c'est un film de retour en arrière. C'est pas un film qui renouvelle quoi que ce soit. Il y a un côté un peu film de famille que moi j'aime bien, en fait. Le fait de reconnaître, de se retrouver dans ces films, dans cette histoire. Jazanke, c'est quand même un immense cinéaste qui a dépeint depuis la fin des années 90 la mutation de la Chine, qui a dépeint à la fois le fait qu'on passe par la révolution agraire et que la Chine devient urbaine, le fait que l'immigration intérieure est très forte, et donc le film Les Feux Sauvages nous raconte ça commence dans le nord, la deuxième partie descend le long du pays et puis on termine plutôt dans le sud, et ces trois régions, c'est aussi des régions qui nous racontent le changement de l'économie de la Chine, donc l'industrie minière au début, au milieu on est vraiment dans la région qu'on voit dans le film Still Life de 2006, qui est la région du barrage des Trois Gorges, qui raconte toute cette violence qui a été faite à la fois au paysage chinois et puis au peuple chinois de déplacer des populations entières. Et puis on termine plutôt dans le sud, dans une région plus ouverte sur le reste du monde et plus sur les technologies de pointe. Et donc il y a une cohérence quand même dans ce voyage géographique, dans ce voyage rétrospectif aussi. Et moi, je vois des éclats quand même. Il y a des moments, les premiers moments qui sont des plans séquences tirés de Plaisirs inconnus où on voit Zhao Tao danser. Je trouve qu'il y a quand même un espèce de surgissement de vie et que c'est très émouvant après de voir son visage qui s'attriste au fil des années, comme si Zhao Tao, c'est toujours un personnage allégorique de la Chine dans les films de Jiazhangke. Donc c'est comme s'il nous racontait le devenir triste de la Chine, quoi. Le fait que ce pays s'est attristé au fil de son évolution et au fil de sa mutation. Il y a des moments qui m'émeuvent profondément dans ce que peut produire le cinéma, et aussi beaucoup de moments qui sont très documentaires où on est un peu à distance et où moi, bon, c'est peut-être que mon cerveau n'arrive pas à rassembler tous ces collages, mais où je me sens un peu en dehors de tous ces portraits qui nous montrent qu'ils sont très beaux, et c'est vrai qu'il a un œil sur la Chine qui est fou, mais on se décolle quand même assez souvent de ce qu'il est en train de nous raconter.
Muriel Joudet, c'est un problème de montage essentiellement, à votre sens ?
Ouais, je pense que tout... Enfin, on peut pas... Il n'y a pas forcément un film dans des rushs qu'on retrouve, quoi. Pas systématiquement, ou en tout cas... après, là où je trouve que le film... Et on ne sait pas aussi si on est dans... Je pense qu'on est entre le documentaire et la fiction, et du coup, on est un peu nulle part. Enfin, ça a toujours été la matière de Jazanke d'être entre les deux. Mais là, je trouve qu'on est un peu ni dans l'un ni dans l'autre, et que peut-être ce qui n'est pas assumé, c'est que ce soit un film sur sa compagne, son actrice, sa collaboratrice. Et je me souviens d'un film d'Alain Cavalier qui avait remonté La Chamade en ne gardant que les extraits de Catherine Deneuve. Il avait fait un petit film comme ça pour la Cinémathèque française. Et j'aurais voulu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il revienne sur ses films et qu'il fasse un film sur Zhao Tao avec voilà, assumé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de filmer une actrice voilà, sur autant d'années, comment je l'ai regardée, et surtout aussi, c'est là où pour moi le film est un document. Raphaël parlait du court-métrage qu'a fait Almodovar avec Tilda Swinton, je crois que c'était pendant le confinement, Et là, pour moi, c'est aussi un film de confinement. C'est-à-dire, on sent que c'est Jazanke qui ne peut pas faire de film et donc va regarder dans les tiroirs ce qu'il y a, essaye de monter, voilà, cuisine avec ce qui, les ingrédients qu'il y a dans le placard quelque part. Et ce sera marrant dans quelques années de faire peut-être une rétrospective cinéaste et Covid et de passer tous ces films. Qu'est-ce que c'est que de faire du cinéma quand on peut pas en faire? Et de fait, les quelques séquences tournées.
C'est vrai qu'il c'est en joue fin. Totalement parce que les séquences tournées en 2022. Sont en plein Covid et c'est donc ça. Les personnages portent des masques et donc il est question de se démasquer pour montrer son visage vieilli. Ça, c'est quand même une belle idée de cinéma de montrer le visage à demi et puis finalement de le faire découvrir pour un robot d'abord.
Oui, c'est
un robot qui n'arrive pas à lire les émotions de.
Et du coup, c'est un film Covid qui apparaît un peu tardivement parce que les films tournés en temps de Covid sont sortis déjà, assez rapidement. Et là, on a un film qui nous. Mais pour moi, je le vois comme ça. Vraiment, je pensais à Jazanke sur sa table de montage, en train de se dépatouiller avec toute cette matière, faute de pouvoir faire un vrai film en bonne
et due forme. Le montage, en fait, il fonctionne vraiment par écho, par rime visuelle et vraiment plus par motif que par une trajectoire narrative. Et c'est vrai que cette narration des deux amants qui se perdent, qui se retrouvent, elle est tellement ténue qu'on a du mal à s'y intéresser vraiment. Et y a quand même ce motif qui revient des danses, des chants, comment la culture populaire évolue, comment maintenant on fait des clips avec un simple téléphone portable, comme ça, dans la rue, par rapport à des moments de représentation des cabarets beaucoup plus tournés vers le XXe siècle, dans la toute première partie. Donc il y a quand même des effets de montage qui sont intéressants. Pour moi, le problème, c'est vraiment trop la dilatation du film. Je pense que sur une heure et demie, ça aurait tenu bien davantage.
Et il faut avoir vu Jazanke pour accrocher.
C'est la question que je me posais. Quel intérêt trouverait quelqu'un qui ne connaît pas du tout son cinéma?
Je pense qu'il faut avoir vu. Je pense que c'est quand même un film qui s'adresse, qui fait du neuf avec. Il faut connaître l'imaginaire, l'importance de Jazanke. Puis surtout, c'est dommage de commencer par ça si on n'en a vu aucun, parce que c'est pas son meilleur film, justement. Donc, je pense qu'il faut connaître. Alors, peut-être
que c'est un film qui récapitule avec des grands raccourcis. Donc, c'est vrai que quand on voit les décors, on reconnaît tout le hors-champ qu'il y a derrière et qu'on peut se re-raconter avec les films. Mais quand on n'a pas les autres films, je pense que c'est difficile.
On veut décourager personne.
Pour encourager, alors qu'est-ce qu'il faudrait voir de Jazanke avant pour ce film-là?
Moi, je dirais Plateforme, le premier sur le Pickpocket, j'ai oublié le titre, pardon.
Ou Artisan Pickpocket.
C'est ça, voilà. Still Life.
Et dans les documentaires, parce que Jazanke, il passe du documentaire à la fiction, parfois il hybride les deux. Moi, il y a un documentaire que j'aime énormément qui s'appelle I Wish I Knew de 2010, qui est sur la ville de Shanghai à travers des portraits singuliers. Et ce qu'il y a quand même dans la place de Jazanke qui est particulière, c'est que c'est un cinéaste qui est très critique du pouvoir et très critique d'une forme de courant nationaliste en Chine et qui quand même arrive à avoir ses films qui sortent en salle. Donc il a une place aussi.
Et Touch of Sin aussi.
Ah oui, Touch of Sin.
Bon, après, un peu tous les premiers, vous prenez.
Merci en tout cas pour ces conseils, Raphaël Pirer et Muriel Joudet. Évidemment, toutes les références, les infos, c'est sur la page des Midi de Culture.